L'amour fillah, c'est un amour qui est puissant parce que c'est un amour, subhanallah, qui te permet, c'est un amour qui est éternel. Parce que Allah, il réunit ceux qui se sont aimés en lui. Tout est un acte d'adoration et tout ce qu'on fait, c'est pour Allah, subhanahu wa ta'ala, tu vois. Et finalement, dans l'amitié et dans l'amour, également, on le fait pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Les doigts, c'est une des choses les plus importantes. Tu vois, les doigts avec amour, justement, que tu fais avec intensité, que tu fais avec émotion. Que, tu vois, c'est au moment où, tu vois, la personne, quand tu perds une personne, le moment où tu es altère, où tu pleures, où tu es en souffrance, c'est le moment où il faut faire les doigts. C'est le moment où il faut que tu utilises cette émotion, cette douleur, cette souffrance pour parler à Allah. Ya Allah, elle me manque, ya Allah, elle me manque. Fais-lui miséricorde, pardonne-lui ses péchés, fais-la rentrer au paradis.
Assalamu alaikum à toi. Moi, c'est Madina. Si tu es convaincue du bien fondé du mariage, mais que tu traverses quelques secousses durant ton voyage, alors tu es au bon endroit. Halal Love, c'est plus qu'un podcast, c'est une mission. Celle de nous rappeler la beauté, la singularité et la force qui se cachent derrière cette union sacrée. Chaque semaine, je reçois des couples, des professionnels, des savants, des hommes et des femmes, afin de converser sur le sujet. Ensemble, on cherche à comprendre pourquoi c'est compliqué, mais surtout, comment mieux y arriver. Bienvenue dans Halal Love, un rendez-vous hebdomadaire où l'amour est prioritaire et Allah, notre seul repère. Ceci est une discussion entre sœurs fillah qui rêvent d'amour depuis toujours. Mais si, vous savez, cette relation pure, liée par des sentiments qui durent, le tout préservé dans un bel endroit sûr. Longtemps, elles ont cru que pour savourer cet amour-là, il fallait aimer comme au cinéma. Que l'on devait impérativement s'emballer, aimer, exalter, comme dans nos séries TV préférées. Vous-même, vous savez. Et puis, la vie, les rencontres, la maturité, les décès, leur ont fait réaliser qu'il était temps d'arrêter de rêver. Surtout quand ce rêve était de si piètre qualité. Avec Umayma, autrice du best-seller Ton dernier regard et créatrice du concept Miracle Fajr Routine, on discourt d'un amour qui ne connaît pas de fin, car il est intimement lié au divin. La mahabba fillah, en français l'amour en Allah, est un lieu de vie où l'amour fleurit, car il se nourrit d'une source qui jamais ne tarit. Dans notre échange empli de spontanéité et de sincérité, on aborde la profondeur de ce sentiment, on revient sur sa définition et sur l'importance de la pureté de l'intention avant même de passer à l'action. On parle également et évidemment de Khelti Najia, la maman d'Umayma, une femme exceptionnelle qui a tenté de servir Allah de tout son âme et ce, jusqu'à son dernier souffle, jusqu'à son dernier regard. De nombreux hadiths sont égrenés au fil de notre échange parce que, même si nous ne sommes pas des femmes de science, loin de là, nous avions à cœur de faire les choses de la meilleure façon qu'il soit. Puisse Allah agréer chacune de nos pensées. Amin. Cet épisode sera diffusé en deux parties. Si la première est dédiée à la mahabba fillah, la seconde se concentrera sur Khelti Najia et Umayma. J'espère que vous éprouverez autant de joie à écouter cette conversation que nous en avons eu à l'enregistrer. Sans plus tarder, je vous laisse profiter des paroles de mon invité, mais avant de vous quitter, je tenais à vous dire une dernière chose de vive voix. Je vous aime Allah. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maïma, comment vas-tu?
Wa alaikum salam wa rahmatullahi Madina. Je vais bien, je te remercie. Et toi, merci pour ton invitation.
Ah bah c'est moi qui te dis merci quand je si tu savais la réaction de mes grandes sœurs quand je leur ai dit ah demain j'interviewe Maïva Inch'Allah, tout le monde était ravi, donc tout le plaisir il est pour moi, en l'occurrence pour nous pour toute la famille, et je te remercie d'avoir pris le temps parce que je sais que tu es très occupée, donc merci de nous offrir de ton temps à moi, aux éditeurs du podcast. Je les sais nombreux à avoir lu ton ouvrage dont on va parler en partie aujourd'hui, et vraiment merci pour eux. Barakallahu fik, Asfata, te récompense grandement.
Amine, mais c'est moi qui te remercie. Oh là là, tu vas me faire rougir là. Trop mignonne tes sœurs.
Non, bah vraiment. Elles le recevront avec grand plaisir. Umayma, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en nous indiquant ton prénom, ton âge, si tu le souhaites, tu n'es pas obligée, et puis surtout ce que tu fais dans la vie, Inch'Allah.
Oui, du coup, je m'appelle Umayma Amjid. Alors, Amjid, c'est le nom de jeune fille de ma maman. C'est pas mon nom à moi, mais je l'ai adopté pour mon identité, on va dire, sur le web, sur le livre, tout ça. J'ai 32 ans, je suis maman de deux princesses. Et aujourd'hui, donc j'ai écrit le livre Ton dernier regard, et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie. Et j'ai aussi, je suis aussi en fait la fondatrice du concept Miracle Fajol. Donc voilà, le fait de j'aide les femmes à se construire une routine du Fajol, à la fois spirituelle et à la fois axée sur le bien-être, et pour qu'elles soient sereines au quotidien et dans l'au-delà. Donc voilà, donc à la base je suis orthoptiste de formation, j'étais diplômée en 2016, mais c'est marrant parce qu'en vrai je me suis cassée la tête pour ce diplôme, tu sais, j'ai passé un concours, je suis allée partout dans les villes et tout, et à la fin j'ai exercé je crois quelques semaines, tu vois, dans ma vie.
Mais est-ce que tu trouves pas que au final, peu importe qu'on utilise son diplôme ou pas, ça nous sert toujours dans la vie, tu vois? Je trouve qu'en fait l'école, et des fois c'est ce que j'essaie d'expliquer à mes neveux et nièces, enfin non, j'ai du mal à leur expliquer, c'est plutôt ça pour être honnête, mais ce que j'aimerais leur dire parfois, c'est que je comprends que tu aies le sentiment que apprendre le théorème de Pythagore ça sert pas à grand chose. True that, parce qu'en fait tu vas pas le ressortir derrière. En revanche, la méthodologie que ça t'offre, le goût de l'effort que ça t'offre, c'est ça qu'il faut aller chercher en fait. Et donc je suis sûre que ton diplôme d'orthoptiste, même si tu l'as pas utilisé en tant que tel, enfin j'imagine qu'il t'a apporté peut-être dans l'écriture de ton livre ou dans le programme d'accompagnement que tu as aujourd'hui, non?
Je sais pas si c'est ça que ça m'a apporté, ça m'a enrichi, c'est clair, parce que tu vois, je suis allée dans le sud, j'ai vécu 3 ans, tout ça.
Exact.
Je suis allée toute seule. En fait, ça a été toute l'expérience.
C'est ça, c'est tout voilà. Ce qu'il y a autour, en fait.
Après, j'ai quand même. Enfin, je pense que ça m'a beaucoup apporté, mais pas du tout là où on le penserait, tu vois. C'est vraiment
c'est
le fait d'être seule, le fait de. Voilà, c'était une expérience qui était enrichissante. Et aussi, si tu veux, je pense que c'est une des premières fois où ça m'a confrontée à mes peurs dont j'avais pas forcément conscience, parce qu'au quotidien à Lyon, avec ma famille, mes amis, j'avais un grand entourage amical. Et j'étais tout le temps, je fuyais les côtés de moi qui me plaisaient pas, je fuyais mes peurs, j'en avais pas conscience. Et en fait, le fait d'être seule, il y a un moment donné où tu te rends compte que y a peut-être des trucs en fait qui vont pas chez toi, tu vois, il y a peut-être des choses tu vois, je sais pas comment t'expliquer, mais tu prends conscience de certaines choses dans la solitude, tu fais comme une espèce d'introspection, même si au départ tu fuis l'introspection, mais au bout d'un moment, je me suis confrontée quand même à elle. Et j'ai pas forcément à ce moment-là agi dessus. Plus tard, j'ai agi dessus, tu vois. Après, même, je dirais, avec la maladie de ma mère, avec mes épreuves et tout, ça m'a. J'ai travaillé sur ça, mais à ce moment-là, j'ai pris conscience qu'il y avait peut-être un truc qui allait pas, en fait, à l'intérieur et que je fuyais, tu vois.
Non, ça l'est pas du tout, parce qu'en vrai, en fait, il y a deux choses. Par exemple, à l'inverse, quand tu te maries, là, c'est pareil, tu te redécouvres parce que tu passes de la solitude, pour ceux qui vivent seuls, ou même, je pense, si tu es chez tes parents, t'es dans un espèce de confort, en fait. Ton ego est dans un confort, donc toi, tu as l'impression que tu n'as pas de problème, que... Okay. Que t'es parfaite, hein. Et en fait, un jour, tu te maries, et donc tu te confrontes à une nouvelle réalité qui te fait prendre conscience de certaines choses. Donc je pense que c'est pour moi en tout cas, c'est peut-être pas tant la solitude, mais c'est le changement en tout cas d'environnement qui parfois peut amener ça. Et la deuxième chose, c'est que c'est incroyable ce que tu dis là, parce que j'ai tes questionnements, des choses de ta personnalité que tu voulais questionner, et ben ça je l'ai retrouvé dans ton livre. Donc en fait ça m'étonne pas quand tu dis que finalement c'est des choses auxquelles tu t'es réellement confrontée après, parce qu'on le voit justement dans ton ouvrage dont on va parler dans un instant. Mais avant d'aller dans ton ouvrage, en précision, on va dire, je voulais qu'on s'arrête sur un thème que tu abordes énormément au sein de cet ouvrage. Et c'est un thème presque que tu as transmis ta maman. C'est la marhaba fillah. Et moi, je sais que tu en parles beaucoup dans ton podcast. Moi, je t'ai découvert en réalité un jour où je cherchais de nouveaux podcasts à écouter. Je suis tombée vraiment, j'allais dire par hasard, mais nous-mêmes savons, il n'y a pas de hasard. Allah m'a amenée vers ton podcast. Et c'était vraiment quasiment le tout début, tu vois. Et quand je t'ai entendu parler de la marhaba fillah, je me suis dit, mais c'est ça que je comprenais un peu le concept, mais j'étais incapable de mettre des mots dessus, et je trouve que tu l'as fait brillamment dans plusieurs épisodes. Donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on parle de ce thème-là, parce que ça nous apporte beaucoup en tant que croyants. Aimer son prochain, c'est vraiment l'un des trois critères d'une foi qui est exquise, et ça c'est le prophète Salem qui nous le dit. Donc c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose en tant que musulman qui peut nous emmener loin, mais je pense que pour justement en saisir toute l'essence et aimer son prochain comme Allah nous le demande, il faut qu'on sache ce que c'est que l'amour, et en l'occurrence la marhaba fillah. Donc ma première question pour toi Maïma, c'est quoi la marhaba fillah? D'où ça vient? Est-ce que tu sais étymologiquement les sources? On t'écoute.
Alors déjà je voulais te dire un truc, j'ai oublié de te le dire en off. Je le fais maintenant.
Encore mieux. Très bien.
Parce que c'était marrant, parce que quand j'ai lu tes questions, j'ai vu marhaba fillah. En fait, c'est mahabba fillah, il n'y a pas le ra. Mais j'ai trouvé ça hyper mignon parce que tu dis, parce que marhaba, c'est bienvenue. Donc pour moi,
Exact.
c'était trop mignon, tu vois. Il y avait cette espèce de bienvenue dans l'amitié fillah, voilà. Donc
C'est
la
beau.
marhaba fillah. En fait, si tu veux, pour revenir à ta question, moi, c'est une thématique, c'est vrai que j'aime énormément. Et alhamdoulilah, j'ai eu la chance, tu sais, de grandir dedans et avec la valeur que c'est ma mère, elle m'a. Si tu veux, pour moi, c'était un peu normal. C'était le truc que j'ai vu autour de moi. Mais avant de te parler de mon expérience personnelle, on va revenir sur une définition plus globale. Déjà, il y a un truc, je pense, sur lequel, tu vois, qu'il faut rappeler et sur lequel il faut bien se mettre tous d'accord parce que c'est la réalité. C'est que pourquoi est-ce qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala nous a créés? Allah Subhanahu wa Ta'ala dit, je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Donc Allah Subhanahu wa Ta'ala nous a créés pour son adoration. Il nous a créés parce qu'il veut pour nous le paradis. Allah Subhanahu wa Ta'ala nous a créés avec un but, d'accord? Il y a une intention derrière notre création, il y a quelque chose, ok? Et donc, finalement, la mahabba, dans l'amitié, comme dans tout ce qu'on fait sur cette terre, il y a toujours une verticalité. Il doit toujours y avoir une intention de faire les choses pour Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ça, c'est quelque chose aussi que j'aborde souvent, c'est l'intention que tu ailles au travail, que tu fasses des études, que tu fasses quoi que tu fasses, que tu lances un business, que tu sois dans ton rôle de maman, que tu éduques tes enfants, que tu sois dans ton rôle d'épouse, etc. C'est une ibada, c'est une adoration, c'est un moyen de te rapprocher d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, tu vois. Et en fait, finalement, il n'y a pas normalement, tu sais, regarde, même pour aller aux toilettes, Subhanallah, il y a une sunna, il y a un dua à faire avant, il y a un dua à faire après. Même pour manger, même dans l'intimité de couple, etc. Donc finalement, tout est un acte d'adoration et tout ce qu'on fait, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu vois. Et finalement, dans l'amitié et dans l'amour, également, on le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu vois. On le fait dans ce cheminement de vie qui est tout ce que je le fais pour m'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je remplis mon cœur d'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. J'avance dans ma vie vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, même l'amitié, même l'amour, eh bien, ça se traduit en fait dans ce cheminement toujours vers Allah subhanahu wa ta'ala. On s'aime l'un l'autre, on s'entraide l'un l'autre pour avancer vers Allah. On s'aime l'un l'autre pour Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Si tu veux, enfin, on parlera peut-être un peu après si tu veux plus de précision sur le concret, sur qu'est-ce que ça veut dire vraiment s'aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais déjà dans la définition globale, c'est déjà de se dire, je le fais pour Allah. Et tu vois, notre religion, elle met beaucoup, beaucoup en valeur l'amitié filet, l'amour filet. C'est quelque chose qu'elle. Allah, ce matin, il élève l'amour à Allah. Et parce que moi, je me dis, regarde, le deuxième pilier de l'islam, qu'est-ce que c'est? C'est la prière. Il y a les mosquées. Il y a en fait, la notion de fraternité, elle est importante dans notre religion. Les hommes se retrouvent tous les vendredis à la mosquée. Voilà, il y a cette fraternité, on se retrouve tous ensemble, elle est physique, tu vois. Il y a le fait, il y a l'importance de se visiter les uns les autres, il y a cette importance. Ah oui, et puis il y a cet exemple qui est trop trop beau du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit les croyants sont comme un seul corps, tu vois. Quand il y en a un qui est malade, tout le corps il vient tout de suite avec la fièvre, etc., tu vois. Et ça c'est super beau. Alors, tu sais, j'ai un petit hadith là-dessus parce que. Qui est vraiment trop. J'ai plein de hadiths sur la mahabba, il y en a plein, et c'est pas pour rien qu'il y en a plein, non, mais c'est parce que tu vois en fait à quel point c'est valorisé dans notre religion, tu vois. Le prophète sallallahu alayhi wa
Complètement.
sallam a dit, vous verrez les musulmans à travers leur bonté, leur affection et leur attachement réciproque constitués comme un seul corps. Quand l'un des membres souffre, il transmet sa fièvre et son insomnie à tout son corps. De Sahih al-Bukhari numéro 6011, tu vois. Donc en fait, il y a ce truc de on est là les uns pour les autres. Tu vois, qui est beau dans la mahabba fillah. Et puis, juste, j'ai aussi envie de te citer ce verset, tu vois. Je pense que tout le monde connaît, parce que c'est une petite sourate, c'est voilà ça. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, finalement, il nous dit, en fait, pour réussir dans cette dunya, tu vois, ben, en fait, il faut croire en Allah, il faut faire le bien, et il faut se soutenir les uns les autres pour avancer vers Allah, tu vois. Il y a vraiment cette notion, on est là les uns pour les autres, on se soutient dans la vérité, dans la patience, tu vois, dans les épreuves, etc. On est là les uns pour les autres, on est un seul corps. Et ça, je trouve ça vraiment beau, tu vois. Et c'est vraiment quelque chose, tu vois, avec laquelle j'ai grandi et que Oumi, elle nous disait, elle nous le répétait, elle nous faisait des rappels dessus. Et aussi, je le voyais autour d'elle, comment elle faisait. Tu sais, voilà, ma mère, elle est venue, subhanallah, dans son nouveau quartier, là, tu vois, là où, enfin dans son nouveau quartier. Elle est venue en 1999, elle a déménagé. Elle a emménagé dans un nouveau quartier, tu vois. Et en fait, là où elle est venue, parce que je t'en parle parce que tu sais, récemment, j'ai rencontré des amis à elle, une amie à elle, je suis allée la visiter et tout. Et elle me dit, elle me dit, avant que ta mère vienne, on était un peu perdus, on était tous là, on n'allait pas à la mosquée, on allait vite fait, on allait au marché, on... Tu sais, les petites pipelettes, tu sais, les mamans, tu vois, qui sont là, gnagnagna, tu vois, les trucs. Elle me fait, finalement, on n'était pas... Voilà, quoi, tu vois, il n'y avait pas de... Elle me fait, et ce printemps, ma mère est venue, et elle a réuni tout le monde. Pourquoi ? Pour l'amour d'Allah. Parce qu'elle a commencé à faire des assises de rappel. Elle a commencé à donner des cours le vendredi après le Jumu'ah. Elle a commencé... En plus, subhanallah, la même année où on est venu, tu vois, ils ont construit une mosquée, tu vois. Donc, en fait, elle est venue. Ouais, subhanallah. Et ils ont construit une mosquée du côté des hommes, du côté des femmes. Et les choses ont bougé. Et en fait, subhanallah, c'est, elle est venue et elle a pratiqué, elle a semé des petites graines de mahabba fillah. Et tu vois, elle les a d'abord réunies pour Allah. Elle n'a pas dit on se réunit pour prendre un café et faire connaissance, tu vois. C'est pas la fête des voisins, tu vois. C'est on se réunit pour se rappeler qu'on est là pour Allah, qu'on est là pour adorer Allah, tu vois. Et on est là pour se soutenir pour ça. Venez, moi, je vais vous apprendre. Je vais vous apprendre des choses. Celles qui ne savent pas lire le Coran, celles qui sont analphabètes, je vais vous apprendre à lire. Ou bien je vais vous apprendre directement le Coran pour les personnes âgées. Les petites jeunes, venez, je vais vous apprendre à lire les lettres, etc. Et en fait, elle a mis en place ça. Et si tu savais le résultat après, le résultat aujourd'hui, il est incroyable.
Bah on en voit un peu les résultats parce qu'en fait, quelque part, notre conversation aujourd'hui, elle est le fruit de ces résultats-là. Tu vois ce que je veux dire ? Clairement. Parce qu'en fait, elle a installé ça dans le quartier où elle résidait, mais tu as pris le relais en marhaba fillah, tu as transmis cet amour-là, tu en as fait un livre. Et regarde où on en est aujourd'hui. C'est ça, en fait, la puissance de la marhaba fillah quelque part aussi. Tu vois, c'est pour ceux qui... Parfois, on peut avoir du mal, on cherche une définition, mais en fait, c'est la marhaba fillah, c'est tellement un langage du cœur que parfois, des actes valent mieux qu'une définition précise, non ?
Oui, et puis... oui, c'est clair, mais pour moi, c'est, tu sais, c'est avant tout une intention.
C'est ça.
C'est-à-dire aimer avec conscience. C'est ah oui, autre chose dans la mahabba fillah. Attends, parce que regarde, il y a un truc. Moi, je parle. Je crois que j'en ai parlé dans mon podcast, mais j'oppose l'amour terrestre et l'amour fillah. Pour moi, l'amour terrestre, c'est un amour qui restreint et qui s'arrête au moment où tu meurs. Supposons que tu aimes ton mari, tes enfants, je sais pas. Finalement, c'est un amour qui dure le temps que t'es sur cette vie. L'amour fillah, c'est un amour qui est puissant parce que c'est un amour, subhanallah, qui te permet. C'est un amour qui est éternel. Parce que Allah, il réunit ceux qui se sont aimés en lui. Tu vois, ceux qui se sont aimés fillah, Allah, il les réunit au paradis, subhanallah. Tu sais, c'est un truc de fou. Il y a un hadith, tu vois, un compagnon qui demande, qui dit au message d'Allah. Un compagnon, en fait, est venu demander au message d'Allah quand aura lieu l'heure. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, mais qu'est-ce que tu as préparé pour elle ? Et l'homme a dit, mais j'ai pas préparé pour elle beaucoup de prières, de jeûnes ou de mots, mais j'aime Allah et j'aime son prophète. Il lui dit, ah, c'est vrai, j'avoue, j'ai pas fait beaucoup, tu vois, j'ai pas beaucoup préparé et tout. Mais j'aime Allah et je t'aime toi, tu vois, toi je t'aime. Qu'est-ce qu'il lui répond le prophète sallam, il lui dit, tu es avec ceux que tu as aimés. Il lui répond ça. Certes, t'as pas beaucoup prié, t'as pas beaucoup jeûné, t'as pas beaucoup fait de monde, t'as pas fait beaucoup de trucs. Mais tu es avec ceux que t'as aimés en Allah, tu vois, ceux que t'as aimés fillah. Bah tu, voilà.
Bah, c'est donc vraiment magnifique en fait. Et ça me, je me permets de rebondir parce qu'en fait, ça me fait penser à une réflexion qu'on a souvent avec Wouri, qui est une enseignante et qui accompagne le développement spirituel de ses sœurs filaires. Et en fait, on disait que parfois, tu te dis, mais chez les chrétiens, on dit beaucoup que Dieu est amour, et pourquoi on ne parle pas de l'amour en islam ? Certains ou certaines d'entre nous pouvaient avoir le sentiment qu'on ne parlait pas beaucoup justement du sentiment amoureux en islam. Mais en fait, tout ça, qu'est-ce que c'est si ce n'est de l'amour en fait ? Allah, il nous dit, l'intention, si tu poses l'intention de l'aimer lui et d'aimer le prophète, Rasulallah, plus que quiconque sur cette terre, regarde où ça te mène en fait. Regarde où ça te mène. C'est magnifique. Si ça, c'est pas de l'amour, je sais pas ce que c'est en fait.
Mais en plus, moi j'avais découvert ça, et ça, je crois que je le savais pas avant de préparer mon épisode de podcast. C'est des trucs que j'ai découvert quand je faisais mes petites recherches. C'est que quand tu aimes quelqu'un, Allah il t'aime et il t'aime l'autre. Il t'aime encore plus. En fait, tu rentres dans un cercle vertueux de l'amour fillah. Oui. C'est pour ça que c'est vraiment un amour qui t'élève. Parce que le prophète sallam a dit, Allah a dit, mon amour est acquis pour ceux qui s'aiment entre eux. C'est incroyable.
C'est magnifique. En fait, ça donne ça donne un élément aussi, je pense, de répondre à ce que c'est que l'amour en Allah, c'est que il y a vraiment cette notion de triangle. On en parle beaucoup, toi et moi, souvent. Mais en fait, si on devait le résumer, c'est un amour dynamique entre trois entités. Toi, la personne que tu aimes, et Allah, au sommet de la pyramide. Et je dis que c'est un amour dynamique, dans le sens où, déjà, pour moi, c'est dynamique parce que ça circule. Plus t'aimes Allah, plus Allah, il fait en sorte que t'aimes ton prochain t'aime toi, plus t'aimes Allah, et ainsi de suite. C'est vraiment un amour qui est dynamique dans ce sens-là. C'est un amour qui circule. Et c'est un amour dynamique dans le sens où, tu chemines vers Allah. Donc, toi aussi, il y a deux côtés là qui essayent, deux personnes qui sont aux extrémités avancent vers le sommet. Et plus tu avances vers le sommet, plus ces personnes-là se rapprochent aussi. Les deux êtres se rapprochent également. C'est magnifique. C'est ça aussi, finalement, l'amour en Allah, quelque part, si on devait le résumer.
Oui, oui, mais oui, c'est ça, subhanallah. Non, c'est vraiment, vraiment beau. Et puis, il ne faut pas oublier, tu vois, que c'est Allah qui détient les cœurs. Et que finalement, plus tu vas aimer l'autre personne pour Allah, plus Allah subhanahu wa ta'ala, il mettra dans le cœur de celui que tu aimes ou celle que tu aimes, tu vois, il va rajouter de l'amour encore. C'est lui en fait qui détient les cœurs. Et il détient subhanallah. Et oui, comme tu as dit, ça circule, j'aime bien cette notion. Et en force, ça circule, ça se renforce, ça grandit, tout à fait. Et c'est beau, tu vois.
Ouais, complètement.
C'est magnifique.
Mais tu vois, c'est ça que... Ça, c'était vraiment une de mes prochaines questions, parce que, tu vois, quand on s'en parle, ça paraît incroyable, et en fait, on se dit, mais comment ne pas aimer l'amour en Allah ? Mais en fait, force est de constater que plusieurs choses. Toi, quand tu as fait un sondage au sein de tes abonnés Instagram pour leur demander ce qu'ils pensaient de la marhaba fillah, de l'amour en Allah, tu as eu quand même pas mal de réponses de personnes qui te disaient, moi, j'ai l'impression que quand j'aime juste en Allah, ça veut dire que j'aime pas vraiment la personne. C'est-à-dire que si Allah m'avait pas dit aime cette personne, je l'aimerais pas. Donc, j'ai l'impression que c'est pas un amour qui est sincère. Qu'est-ce qu'on peut répondre à cette objection-là ? Parce que par ailleurs, j'ai aussi lu des hadiths où on te dit que, en fait, il faut aimer exclusivement la personne pour Allah, comme si, en fait, tu n'avais pas la possibilité d'aimer la personne pour ce qu'elle est. Est-ce que tu as des éléments de réponse là-dessus, justement, pour accompagner, pour donner encore plus de consistance à ce que c'est que l'amour à Allah ?
En fait, le truc, c'est que, effectivement, moi, ça m'avait surpris ce sondage. Comme je t'ai dit, moi, j'ai grandi avec cette notion de mahabba fillah, c'est-à-dire que ma mère me disait, par exemple, je t'aime fillah, ma fille, tu vois, elle ne me disait pas je t'aime. Et donc pour moi le plus bel amour, c'est vrai que ça a toujours été ça, tu vois, c'est voilà. Et donc j'avais fait ce sondage, et effectivement certaines réponses m'avaient un peu surprise, parce que c'est comme si l'amour désintéressé, ben, c'était l'amour pas filet, l'amour je t'aime, tu vois, et que l'amour filet, il y avait cette notion effectivement de oui mais c'est pas pour toi, c'est pour Allah, c'est comme si il y avait un intérêt derrière, je sais pas, et ça dérangeait les gens. Moi, ça me surprenait. En fait, je me suis rendu compte de plusieurs choses. Déjà, il faut dire ce qui est, c'est que nous, on est conditionnés par l'Occident, par les films, par les séries, par les Bollywood, les Hollywood, les bidules chouettes, les dramas coréens et compagnie. Et donc, en fait, mine de rien, ils nous ont appris inconsciemment que le plus bel amour, c'est l'amour terrestre, c'est cet amour que eux ils appellent voilà inconditionnel. C'est voilà. Et donc quand tu dis je t'aime fillah, eh bien ça dérange, tu vois. Mais ça pour moi c'est un problème, à quel moment quand tu fais les choses pour Allah, déjà il y a un problème, tu vois. En quel moment on doit ressentir un truc alors qu'on a été créé pour Allah, alors que le but c'est de rencontrer Allah. Tu vois, je veux dire, déjà il y a ça, tu vois. Et ensuite, effectivement, en fait ce qu'on comprend pas, c'est que un amour où il n'y a pas Allah, moi je pense que c'est un amour qui est voué à l'échec, en fait. Parce que un amour où il n'y a pas Allah, c'est égoïste, c'est un amour qui est égoïste. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est un amour qui est égoïste. Parce que comment ça, tu vas avoir des attentes. Le minimum, c'est qu'on te rende cet amour, tu vois. Tu vas attendre beaucoup de choses des autres. Je pense que c'est un amour qui va entraîner des peurs. La peur de la séparation, la peur de la mort,
l'abandon,
tu vois, c'est la peur de perdre l'autre, et qu'est-ce que je vais devenir sans l'autre. C'est un amour qui nous rend vulnérables. Ah mais tu vois, si la personne n'a pas, je vais être, ça y est, je vais, tu vois, ma vie va s'effondrer, tu vois. En fait, il y a une espèce d'amour qui est un peu, qui a de la dépendance, même si bien sûr il y a des cas extrêmes de dépendance affective, même si on n'en vient pas aux dépendances affectives et tout ça, mais il y a quand même une certaine dépendance. Il y a des attentes, il y a des choses, il y a des, alors que donc forcément, donc c'est pas un amour qui est désintéressé, en fait. On a l'impression
que c'est un amour qui est intéressé que l'amour filaire. C'est ça, en fait, que tu es en train de dire. Et je pense que tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu es dans ton mariage, je ne parle pas forcément de moi, hein, mais tu sais, tu peux avoir des moments dans un couple où tu fais des efforts pour faire plaisir à la personne. Si la personne, elle ne répond pas à tes efforts, toi, qu'est-ce que tu vas faire naturellement? Tu vas arrêter de faire des efforts. C'est ça qui se passe. Et donc, quand tu arrêtes de faire ces efforts, le premier réflexe que tu peux avoir, c'est de te poser la question de « Ah, donc en fait, je faisais des efforts tant qu'ils me les rendaient. » Donc là, on est clairement dans de l'intérêt. Alors que quand tu es dans l'amour en Allah, justement, s'il y en a un des deux qui baisse un peu la garde et qui baisse un peu le niveau d'effort, tu dis « Mais attends, Allah, lui, il n'a pas baissé son niveau d'effort. Allah, lui, va toujours te payer. Donc, pourquoi tu rabaisserais ton niveau d'effort ? Donc, tu maintiens ton niveau d'effort. Et c'est en ça qu'encore une fois, ça circule. Parce que tu donnes pour Allah, Allah va redonner à ton conjoint ou à ta conjointe. Et ta conjointe va avoir un regain d'énergie là-dessus. Mais c'est vrai que moi, je suis comme toi. L'amour terrestre, qui est un amour, moi, je dis toujours un peu vertical versus l'amour horizontal, ou en tout cas l'amour en triangle, c'est un amour qui est très « je t'aime tant que tu m'aimes ». Je t'aime
voilà. Forte. C'est ça. Alors que l'amour filial, non. L'amour filial, je suis capable en fait de faire des choses, de les faire pour Allah. J'ai pas. Bien sûr, c'est humain d'avoir des attentes. Alors, je dis pas que moi, quand je fais des trucs, moi aussi, j'attends que mon mari me dise je t'aime, il me dise.
Bien sûr. C'est humain.
C'est humain. Ok. Mais je conscientise. Je me dis quand même bon. Mais mon but, c'est d'aller vers ça. Tu vois, c'est de tendre vers ça. Et il y a des moments où je vais faire des efforts. Il y a des moments où mon mari va m'énerver et je vais me dire, tu vois là, s'il n'y avait pas l'amour filial, je pourrais m'énerver et je pourrais mal réagir et je pourrais dire vas-y là, tu vois, nan, nan. Mais je vais me dire non, mais en fait, je vais le faire pour Allah. Là, à partir de maintenant, tout ce que je suis en train de faire là, c'est pas pour lui, hein, parce que lui, il m'a énervé. Lui, ça y est, j'ai plus de patience. Mais pour Allah, je vais faire des efforts. Pour Allah, je vais faire ça. Moi, je me rappelle d'une amie à ma mère qui me racontait ça quand j'étais plus jeune, ça me faisait rigoler. Elle me dit ouais, des fois, mon mari me prend la tête et je suis là, j'ai plus envie de cuisiner, j'ai plus envie de rien faire en mode vas-y, débrouille-toi. Et elle me dit, et je vais dans la cuisine et je prépare le repas et je dis Allah, c'est pour toi. Et Allah, c'est pour toi. Et je lui pose devant la table et je dis c'est pas pour toi, hein, c'est pour Allah, ne crois pas que c'est pour toi. Elle m'a dit je fais ça et je pars. Et Allah, c'était pour toi. Mais ça me fait rire. Moi, d'un côté, ça me fait rire, mais en même temps, je me dis en fait, finalement, c'est bon, on en rigole, hein, mais ce que je veux dire, c'est que l'amour filial, franchement, c'est un amour qui te pousse vers le pardon pour Allah, qui te permet de faire des choses peut-être que tu ferais pas en temps normal. Et c'est un amour, je sais pas comment t'expliquer. Moi personnellement, le moment où j'ai le plus ressenti l'amour filial, le moment le plus intense dans ma vie où j'ai ressenti ça. Je sais pas si tu peut-être que tu voulais en parler plus tard. Est-ce que je peux le dire maintenant ou pas parce que ça concerne.
Il y a aucun problème. Tu fais ce que tu veux, mais pas de problème. On raccrochera les wagons, Charles.
En fait, c'est au moment de la mort de ma mère. Parce que quand je l'ai accompagnée pendant sa dernière nuit et que j'étais avec elle et que j'ai fait la shahada avec elle, parce qu'en fait, moi, je m'étais endormie à un moment donné, j'avais prié pour elle et tout, après je m'étais endormie et je fais un rêve, tu vois, je rêve que ma sœur ouvre la porte et me dit « Oumima, qu'est-ce que tu fais ?» Oumima, elle t'attend et elle pleure. Et subhanallah, je me réveille immédiatement et je me dis « Allah, il m'a réveillée, il m'a envoyé ce rêve, c'est un signe, c'est que Oumima, elle a dû faire des doigts en disant « Je veux pas être seule ». Elle sentait que c'était la fin, elle voulait que je sois là. Et donc, je vais la voir, j'ai dit Oumi, j'arrive, j'ai bien entendu tes doigts, Allah il a entendu tes doigts, je vais faire mes ablutions et je viens. Et subhanallah, moi, comme ça, subhanallah, je sais exactement ce que je dois faire alors que j'aurais pu ne pas y penser, tu vois, subhanallah, Rabbi il a mis ça dans mon cœur. Je fais mes ablutions, je mets un hijab, je viens à côté d'elle et je l'accompagne, tu vois, avec la shahada et je lui parle, je l'embrasse et je lui fais des bisous et je lui dis que je l'aime filet. Et d'ailleurs, tu sais, je lui dis quoi à ce moment-là ? Oumi, s'il te plaît, si tu ne me trouves pas au paradis, viens me chercher. Oumi, s'il te plaît, si tu ne me trouves pas au paradis, viens me chercher. Et subhanallah, et je passe cette nuit. Et tu vois, ce moment-là, cette nuit-là, j'ai senti l'amour filial, j'ai senti l'intensité de l'amour filial, et j'ai senti pour la première fois que cette personne qui était en face de moi, je ne l'aimais pas parce qu'elle était ma mère, je ne l'aimais pas parce qu'elle m'a porté 9 mois dans son ventre, je ne l'aimais pas parce qu'elle m'a fait grandir, je ne l'aimais pas pour ses qualités, je ne l'aimais pas pour ça. Je l'aimais pour Allah. Et mon seul désir, c'était de la retrouver au paradis. En fait, c'est comme si à ce moment-là, je voyais l'âme, je ne voyais pas le corps. Je ne sais pas comment expliquer. C'est comme si les âmes se rencontraient, les âmes s'aimaient, il y avait quelque chose d'éternel, il y avait quelque chose d'intense, il y avait quelque chose de lumineux, quelque chose de beau à ce moment-là, qui est indescriptible en fait, qui se ressent. Et à ce moment-là, j'avais de l'admiration pour cette âme. Je me disais, mais qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est aimée d'Allah, qu'est-ce que... Ah, je veux la retrouver, je veux la retrouver après, je veux pas être séparée d'elle, tu vois. Et finalement, pour moi, c'est ça l'amour fillah. C'est vraiment un amour qui dépasse le corps, qui dépasse le terrestre, qui dépasse... C'est ce truc de, oh, je veux être avec toi sous le trône d'Allah, tu vois. Oh là là, je veux être avec toi au paradis pendant l'éternité, je veux qu'on passe l'éternité ensemble, je veux qu'on se retrouve après, tu vois. Tu vois, et du coup, quand t'es dans cette dynamique-là, et ben, du coup, si tu veux, les petits soucis de la dunya, les petites rancœurs, parce qu'aucune amitié n'est parfaite, on a tous nos défauts, et il y aura toujours des moments, il y aura toujours des moments compliqués, il y aura toujours des moments éprouvants dans nos amitiés et tout. Mais finalement, tu dépasses ça, parce que tu vois au-delà de ça, en fait. Je sais pas, c'est pour moi, c'est assez je pense que moi, au quotidien, aujourd'hui, j'essaie de tendre vers ça. J'en suis bien loin, hein, j'en suis consciente que j'en suis loin, mais au moins, j'ai l'intention, tu vois, d'aller vers ça.
Bien sûr.
J'essaye, tu vois. Mais c'est vrai que ce que j'ai vécu ce moment-là, c'est incroyable. Je ne l'avais jamais vécu avant. Et peut-être que c'est pour ça que Allah me permet de faire tout ce que je fais aujourd'hui. Parce que, tu vois, aujourd'hui, je sens que, franchement, j'aime ma mère pour Allah. Tu vois, je veux dire, par exemple, le fait de faire le livre, je me dis, oh, j'ai tellement hâte qu'elle reçoive la récompense dans sa tombe et qu'elle soit heureuse et qu'elle se dise, ah, oh, ma fille, elle a fait ça pour moi. Alhamdoulilah, elle a été la cause et tout. Tu vois, les gens, ils font des dehors et tout. Ah, oh, ma fille, tu vois. Pour moi, c'est ça l'amour filial. C'est même si t'es morte. Mais on continue à nourrir cet amour. C'est pas un amour qui s'arrête à la fin de vie, tu vois.
Tu vois, c'est... déjà, merci d'avoir partagé autant de ton histoire et autant de d'éléments qui nous amènent vraiment à réfléchir sur comment on aime, en fait, vraiment. C'est-à-dire que ce que tu as vécu le soir de la mort de ta maman, rahimallah, c'est vraiment... c'est un goal, en fait, pour tout le monde. C'est-à-dire que de finir par ne voir que les âmes. Et c'est ça qui est... de toute façon, c'est ça qu'on nous demande en islam, à un niveau, ne serait-ce qu'à un premier niveau, quand Allah, il le dit dans le Coran lui-même, qu'il a créé les personnes de différentes cultures, de différentes nations, pour qu'on apprenne à se connaître. Mais je pense que c'est aussi pour qu'on apprenne à se connaître dans le cœur, en fait, pour qu'à la fin de la journée, et pourtant, c'est une femme noire qui déteste quand on dit « Ah, moi, je vois pas les couleurs, etc. » Moi, pendant longtemps, j'étais en mode « Non, bah, bien sûr que si, on voit les couleurs, mais je pense que le but de la foi, c'est d'arriver à ne plus rien voir du tout. Ni les couleurs, ni le... c'est pas important. Je ne vois que ton âme et on discute d'âme à âme, en fait. Et ça, c'est le début, en fait. Et ce que tu es en train de raconter là, c'est la fin. C'est là où on arrive, Inch'Allah, et on se souhaite à tous et à toutes d'y arriver. Et tu vois, j'allais te poser une question un peu plus tard en te disant comment on fait pour aimer après la mort. Mais tu as déjà répondu à ma question. Si tu veux rajouter des choses, je suis preneuse et je pense qu'on est preneuse pour tout le monde parce que là où je suis d'accord avec toi, tu l'as dit précédemment, un amour terrestre, quand tu es parti, tu es parti. C'est-à-dire que les gens, ils essayent de garder des souvenirs. Il y a beaucoup de personnes même qui ont du mal à ranger les chambres, qui sont un peu figées dans le temps, pensant qu'en fait, si je reste dans ce temps-là, alors l'amour restera. Parce qu'ils savent très bien que si tu accompagnes le temps qui passe, et de toute façon, tu n'as pas vraiment le choix parce que le temps est ainsi, ton amour va partir aussi. C'est une réalité. Alors que l'amour filet, dans ce que tu expliques, et machin là, tu expliques très bien, c'est vraiment un amour qui a cette force de ne jamais s'arrêter. Alors, tu l'as dit, tu peux faire des doigts, tu peux faire... est-ce qu'il y a d'autres choses pour toi qui permettent de maintenir l'amour après la mort? Parce que tu as beaucoup aimé ta maman et tu l'aimes encore, mais comment on fait pour continuer d'aimer les êtres qui nous ont quittés? Filet, les aimer filet.
Ben, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Il y a les doigts, déjà. Les doigts. C'est une des choses les plus importantes. Tu vois, les doigts avec amour, justement, que tu fais avec intensité, que tu fais avec émotion. Que, tu vois, c'est au moment où, tu vois, la personne, quand tu perds une personne, le moment où tu es altère, où tu pleures, où tu es en souffrance, c'est le moment où il faut faire les doigts. C'est le moment où il faut que tu utilises cette émotion, cette douleur, cette souffrance pour parler à Allah. Pour expliquer, il y a le manque est très dur. Et en fait, utiliser ce manque, le moment où elle te manque le plus, c'est pas juste, ouais, je souffre, elle me manque, c'est dur et tout. Non, c'est, ya Allah, elle me manque, ya Allah, elle me manque, fais-lui miséricorde, pardonne-lui ses péchés, fais-la rentrer au paradis, ya Allah, réunis-moi avec elle, ou fais-le, Allah, ya Allah, tu vois. Le moment où il y a le manque, bah, fais l'action de dua, fais l'action d'invoquer Allah, fais l'action, tu vois. Et ensuite, il y a l'aumône. Tu sais, moi, je vais parler juste après des rêves, mais il y avait un rêve, c'est pas mal, que j'avais fait après la mort de ma mère. Et c'était incroyable parce que... Bon, je vais parler des rêves. En fait, ce qui se passe, subhanallah, c'est que ce qui est magnifique, encore une fois, dans l'amour fillah, ce qui est magnifique, et c'est ça, c'est que... Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Beaucoup de gens pensent qu'une fois que tu meurs, bah, ça y est en fait. Bon, tu espères la retrouver au paradis, mais qu'il n'y a plus de, y a plus de rencontre. Il
Il y a
n'y
une connexion en fait,
a plus de connexion entre toi et la personne qui est morte. Ça y est, tu vois. Elle est dans la tombe et toi, tu es là. En fait, si, il y a une connexion. Pourquoi? Parce que la mort, quand la personne meurt et qu'elle est dans la tombe, son âme est dans le barzakh. Tu vois, c'est une espèce d'entre-deux. Et le croyant, quand il, enfin, la personne pardon, le sommeil est une petite mort. C'est une petite mort. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait le doigt au réveil. Alhamdulillah, après m'avoir, je remercie Allah qui m'a redonné la vie, après m'avoir fait mourir,
Fait
c'est une petite
mourir.
mort. C'est une petite mort, ce prendre-là. Et en fait, le truc, c'est que dans et cette petite. Nous, en fait, l'âme, au moment du sommeil, l'âme se retrouve dans le barzakh également. Et donc, les âmes peuvent se rencontrer. Et c'est pour ça que parfois, il y a des rêves. Alors, ce n'est pas tous les rêves, il y a des rêves qui sont des rêves. Voilà, la personne te manque, tu as pensé à elle toute la journée, tu vas rêver d'elle. Mais il y a aussi des rêves, il y a plusieurs types de rêves. Il y a les rêves ru'ya, les rêves où les âmes se rencontrent en effet, subhanallah. Et donc à ce moment-là, les âmes se sont vraiment rencontrées. Et moi qui l'ai vécu, alors avant la mort de ma mère, franchement, je ne faisais pas spécialement des rêves ru'ya. Ma mère, elle en faisait par contre, tu vois. Ma mère, subhanallah, elle faisait des rêves qui avaient des sens, etc. Et tu vois, j'en parle dans mon livre, je raconte et tout, notamment par exemple, par
Tout à
rapport à
fait.
l'annonce de sa mort et tout. Enfin, l'annonce de sa
Ouais.
maladie, elle a fait un rêve et tout. Et en fait, moi, elle me manquait trop. Elle me manquait et trop après sa mort. Vraiment, c'était douloureux. Et subhanallah, bah, chaque fois qu'elle me manquait énormément, chaque fois que j'avais besoin d'elle, en fait, c'était incroyable. Eh bien, subhanallah, il me permettait de la rencontrer. Parce que je faisais des rêves d'elle. Alors, il y avait des rêves qui n'avaient pas de signification et il y avait des rêves ruya. Et je sentais très bien la différence. Il y avait un des premiers rêves que j'ai fait d'elle, tu sais, elle m'avait beaucoup manqué. Et ce qui me manquait beaucoup, c'était de parler avec elle. Tu vois, tu sais, quand t'as l'habitude d'appeler ta mère 3 fois par jour, voilà, de lui parler tout le
On
temps, de lui
connaît.
raconter. Voilà, tu vois, tu sais ce que c'est? Et du coup, là, je me retrouvais, j'étais mariée, jeune maman et tout, j'avais besoin de lui parler. Et donc, je rêve d'elle, je la vois, on est dans sa chambre. Et en plus, subhanallah, j'ai rêvé d'elle dans sa chambre. Et sa chambre, c'est la pièce où on se confiait beaucoup l'une à l'autre, où je la rejoignais tous les soirs et tout pour papoter. Donc, je suis là-bas et on parle. Et on échange. Et en fait, dans mon rêve, on parle. Ma mère, elle me parle. Subhanallah, je n'ai absolument aucun souvenir de ce qui s'est dit à ce moment-là. Et j'ai l'impression qu'on a parlé très longtemps. Mais, et c'est incroyable, après ce moment-là, elle va me parler et je vais me souvenir. Et qu'est-ce qu'elle va me dire? Elle va me dire, réunis tes frères et sœurs, prenez des dattes, faites un collier de dattes, une grosse quantité de dattes, et donnez-la à un pauvre. Elle me dit ça. Ce qui est incroyable, c'est que quand je me réveille, premièrement, ce que je ressens, alors ça, c'est un truc qui est commun à chaque fois que je fais dans l'Oréa, je suis dans la confusion. Ça veut dire que j'ai l'intime conviction que ma mère n'est pas morte, qu'elle est en vie. Et donc, je suis en mode, mais on s'est tous trompés, mais en fait, non, elle est encore à l'hôpital, elle a guéri, elle va mieux, elle n'est pas morte. J'ai cette
Waouh,
conviction.
à ce point? Ah ouais.
Ah
Ah oui, d'accord.
oui.
C'est une confusion qui est presque une conviction en plus quand tu la vis. C'est
Oui.
vraiment. Oh, subhanallah,
Oui.
ok.
Et ça me le fait tout le temps quand c'est des l'Oréa. Quand c'est des ru'ya, parce qu'en fait, je pense que c'est parce que nos âmes se sont tellement vraiment rencontrées. Je sais pas, c'est comme si demain tu rencontres ta voisine, et après on te dit, mais en fait, non, elle est morte depuis 2 mois. Tu dis, mais attends, mais je l'ai vue en fait, je l'ai vue. C'est pas possible, tu vois. J'avais ce sentiment, et ça me le fait tout le temps. Et ça met du temps. En plus, je suis heureuse, hein. Je suis hyper heureuse. Ah, c'est trop bien, c'est une super nouvelle. Limite, faut que je le dise aux autres, tu vois. Tout le monde se trompe, tout le monde ne le sait pas. Et voilà, je suis trop heureuse, et je me sens rassasiée. Je me sens rassasiée d'elle. Parce que j'ai passé un moment avec elle, j'ai passé un moment qualitatif, j'ai passé un moment où j'ai vraiment parlé, où elle m'a parlé, je l'ai écoutée, je l'ai entendue. Et donc j'ai ce moment que c'est voilà, c'est comme une personne te manque, et tu passes toute une après-midi avec elle. Bah après, elle te manque plus à la fin de l'après-midi. Tu te
Bien
dis,
sûr.
oh, je l'ai vue. Et moi, j'avais ce ressenti-là. Et par contre, ce qui est incroyable, c'est que je me suis dit, finalement, subhanallah, je n'ai retenu de notre conversation que ce que je devais transmettre. Comme si le reste, c'est l'âme. C'est bon, c'est l'âme. L'âme, elle a compris, l'âme, elle a retenu, l'âme, elle a été touchée. Ça y est, tu vois. Et après, il y a ce que je dois transmettre. Ce que je dois transmettre, ce n'est pas l'âme, c'est la tête. Il faut que la tête, elle se rappelle, tu vois. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et pour en revenir donc, à la question de qu'est-ce qu'on peut faire pour l'autre, bah, du coup, l'aumône. Ma mère, elle nous a aussé sur ça, tu vois. Elle m'a demandé ça à ce moment-là. Donc, faire des aumônes. Et subhanallah, d'ailleurs, ce n'est pas la première fois. Hein. Quand elle était en vie, elle m'avait donné des causes ou des personnes qui lui tenaient à cœur. Et donc, voilà. Donc, parfois, tu vois, je vais dire, ok, bah, vas-y, là, je vais faire un tatouage pour Omi et tout. Et c'est incroyable parce que quand je fais ça, je rêve souvent d'elle après. et c'est des beaux rêves. Je sens qu'elle est en joie, tu vois. Je sens qu'elle est heureuse, elle est contente, subhanallah.
Bah, tu vois, c'est là ce que tu es en train de dire, encore une fois, c'est vraiment la preuve que la mahabba fillah, c'est un amour qui circule. Dans le sens où, tu vois, tu fais pour Allah, quand tu fais une, enfin, Allah, il n'a pas besoin de nous, mais quand tu fais une sadaqa par amour pour Allah, etc., Allah, il t'aime encore plus et il te redonne encore de cet amour en redonnant de l'amour encore plus fort et un lien encore plus fort, là, en l'occurrence, entre ta maman et toi. Est-ce que ce n'est pas incroyable? Vraiment, quand on a ça en tête, tu sais, c'est drôle parce que parmi les questions que j'avais préparé quand j'ai préparé notre conversation, j'allais te demander est-ce qu'on a des récompenses quand on fait, quand on aime Allah, etc. Mais en fait, et c'est une amie qui me disait ça hier, des fois l'important c'est pas forcément de compter les points. Là, en termes d'intensité, on a reçu tellement de choses, on comprend déjà tellement à quel point c'est fort qu'on n'a pas besoin de compter. Alors t'as 1, 2, 3, 4, 5 récompenses, non, là de tout ce que tu nous expliques, et là encore plus particulièrement, là c'est vraiment la preuve que l'amour en Allah est un amour qui ne meurt jamais, puisque Allah est le vivant qui ne meurt jamais. C'est en ça qu'il faut aimer Allah aussi. C'est que quand on aime Allah, Allah nous redonne, je ne sais pas, on s'empresse de ses attributs en fait. Son amour, son immortalité, et c'est absolument exquis. Vraiment, ce que tu témoignes là, c'est merveilleux, subhanallah.
C'est vrai, c'est incroyable, parce qu'il y en a des récompensants, et il y en a à l'appel, il y en a plein, subhanallah, il y en a plein. Ceux qui se sont aimés en Allah, ils sont sous le trône d'Allah, le jour où il n'y a nul autre ombre que la sienne, subhanallah, tu vois, le jour où le soleil est au-dessus des têtes. Ceux qui se sont aimés fillah, ils sont tranquilles, ils sont sous l'ombre, ils papotent, ils sont là, comme ils se sont aimés. On rentre au paradis par groupe. Une personne qui est en enfer, une personne qui est au paradis, qui était à mi-filet, la personne qui était au paradis, elle peut intercéder pour la personne qui était en enfer, elle peut la faire sortir de l'enfer, subhanallah. Il y a un verset là-dessus. Il y a énormément de récompenses dans l'amitié filet. Celui qui soulage un croyant sur cette terre, Allah, il le soulage au jour du jugement dernier. Celui qui fait pour son frère, celui qui rend visite à un malade.
C'est même ce que j'allais dire, celui qui rend visite à un malade, ça aussi, c'est
mais
très...
la récompense, elle est dingue.
Elle est incroyable. Les dizaines de milliers d'anges qui t'accompagnent jusqu'à ce que tu arrives à bon port auprès de cette personne, c'est incroyable. Et c'est ça, moi, que j'aime dans notre magnifique religion, c'est que Allah, il nous... En fait, plus j'avance dans l'âge, plus je me rends compte à quel point servir Allah, c'est servir les autres. En fait, c'est être au service des autres. C'est comme ça qu'on sert Allah, en fait. Et la mahabba fillah, c'est ça aussi. C'est être au service d'eux. Quand on aime, on est au service d'eux. Et je pense que c'est très important de le rappeler parce qu'on vit une époque. Et je pense que c'est pour ça que la mahabba fillah aussi, ça a du mal à passer dans nos esprits très contemporains, dirons-nous. C'est que on n'aime pas être au service, hein. Ah bah non, moi je suis au service de moi-même, et moi, le développement personnel, c'est le développement de soi-même, etc., etc. Alors qu'en fait, quand tu sers l'autre, Allah, je pense qu'on l'a tous ressenti. Moi, il y a vraiment eu des moments dans ma vie où j'ai arrêté ce que je faisais, des choses qui étaient importantes, des choses qui relèvent de mon travail, où t'arrêtes parce que là, tu sens qu'une personne a besoin de toi. Mais Allah, il te met tellement de baraka après. Il te dit, t'inquiète pas, t'as bossé qu'une heure aujourd'hui? Mais t'inquiète pas, cette heure, elle suffira à t'emmener super loin. Bien plus que si t'en avais travaillé sept. Pourquoi? Parce que t'as pris de ton temps pour aider l'autre. Et quand on aime les autres, on les aide. Quand on aime les autres, on les sert. Et je pense que c'est hyper important de s'en rappeler, particulièrement dans le couple. Parce qu'encore une fois, on vit une société contemporaine où on n'aime pas servir, où justement servir, c'est un signe d'asservissement. Alors qu'en fait, il n'y a rien de plus noble. Le premier serviteur, c'était Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'on a fait mieux sur cette terre que notre prophète? Je crois pas.
Ah non, mais c'est clair, c'est très beau ce que tu as dit sur cette notion-là. En fait, Allah, il est pour ses serviteurs. Chaque fois que toi, tu es là pour quelqu'un, Allah, il est là pour toi. Tu vois?
Exactement.
Et ça, exactement. C'est tellement beau. Moi, je trouve ça... Ah ouais, je voulais trop... partager. Ah ouais, alors attends, est-ce que je l'ai notée quelque part ou est-ce que je vais la dire de tête? Je vais la raconter de tête, même si
elle
est dessus. Ah non, attends, je crois qu'elle est là. Attends, je vais vérifier. Moi et mes petites notes.
Prends le
temps. Ah, c'est bon, je l'ai, je suis trop contente. Alors, alors ça, c'est une de mes histoires vraiment qui est vraiment belle, qui est vraiment, vraiment belle. Un jour, Abu Talha va... En fait, il va accueillir chez lui un voyageur affamé. Le truc, c'est que lui, il est très pauvre. Ils n'ont pas beaucoup à manger chez eux. Mais je crois, alors j'ai pas le début là, mais il me semble que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va dire, voilà, qui veut accueillir ce voyageur, etc. Et lui, il a envie d'être au service, il a envie de... Il dit, moi, moi, tu vois. Alors même qu'il a pas assez. Et il va demander à en fait, il va demander à son épouse de faire dormir les enfants, de les occuper et de les faire dormir avant que l'invité vienne. Et ensuite, quand l'invité vient, il lui dit, tu vas cacher, enfin, je sais pas comment, en gros, grosso modo, il faut qu'il soit un peu dans l'obscurité, en tout cas que le couple soit dans l'obscurité, qu'il mange dans l'obscurité. Et ensuite, le couple, parce qu'ils avaient qu'un seul repas, en fait, hein, il n'y avait pas assez. Donc, poser la nourriture, que le couple fasse semblant de manger pendant que le voyageur, l'invité, lui, mange pour de vrai. Et donc, il lui a dit, voilà, tu caches la lumière, tu caches la bougie, tu mets pas la bougie, enfin, bon, un truc comme ça pour qu'on soit dans l'obscurité. Et donc, c'est ce qu'ils vont faire. Et, subhanallah, ils vont faire ça. Ils vont faire ça. Déjà, imagine la femme qui accepte, le mari qui a cette intention-là. Ils font tout ça pour Allah. Ils font tout ça par amour pour Allah. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur apporte la bonne nouvelle et leur dit que, tu vois, personne ne les a vus. Personne n'a été témoin de ça. Ils ne s'en sont pas vantés. Ils sont pas. Mais Allah, il l'a vu. Et il leur a dit. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a sorti un verset sur ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est étonné de ce comportement-là. Et il a cité ce verset, donc c'est la sourate 59, verset 9. Et qu'il les préfère à leur propre personne, bien que vivant eux-mêmes dans la pauvreté. Et quiconque est sauvegardé comme ça, contre sa propre avarice sera parmi ceux qui réussiront. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il les a carrément cités dans le Coran, cet acte-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est étonné en fait. De cet acte-là, de cette mahabba, de cette capacité d'être, tu vois, vraiment de cette générosité extrême, tu vois. Et Allah, il aime les actes d'amour comme ça, tu vois. Allah, il aime ça. Et tu vois, il y a plein, subhanallah, il y a plein des hadiths, etc., qui te montrent à quel point Allah, comme je t'ai dit, bah, à quel point Allah, subhanallah, il est là pour ses serviteurs, chaque fois que ses serviteurs sont là pour lui. Et alors c'est pour ça, chaque fois que ses serviteurs sont là entre eux, là, enfin, voilà,
l'un pour l'autre,
l'un pour
oui,
l'autre.
bien sûr, bien
Et
sûr.
je vais citer rapidement ce petit hadith, c'est le professeur Hassan m'a dit, celui qui soulage un croyant d'un souci parmi les soucis d'ici-bas, Allah le soulage d'un souci parmi les soucis du jour du jugement. Tu sais, c'est le moment où tu as des vrais soucis, tu vois. Tous les soucis d'ici, ça n'est rien à côté. Et celui qui accorde une facilité à son débiteur, tu vois, celui qui a une dette, etc., Allah lui facilite dans l'ici-bas et dans l'au-delà. Chaque fois que tu fais quelque chose pour quelqu'un ici, Allah il te facilite ici-bas, il te dit ici je te facilite, et dans l'au-delà je te facilite. Et Allah le couvre dans l'ici-bas, celui qui couvre un croyant, Allah le couvre ici-bas et dans l'au-delà. Allah aide le serviteur tant que le serviteur aide son frère. Subhanallah.
Subhanallah. Là, c'est vraiment, c'est magnifique. Et encore une fois, c'est là que tu comprends que dans l'amour en Allah, il y a vraiment le sentiment amoureux, mais il y a aussi le service, il y a la disponibilité, il y a vraiment toutes ces notions qui font que tu deviens fort après en tant qu'être humain. Parce qu'en fait, franchement, pour même le dernier des athées, il ne pourra qu'apprécier une personne qui a une notion de service aussi fort, en fait, de présence pour les autres aussi forte. Et encore une fois, ce qui te renforce, c'est que quelque part, les gens savent que tu fais ça pour Allah. Pas parce que tu leur as dit, mais parce que je pense que dans ta posture, dans ta manière de faire, c'est très clair que tu fais pas ça pour être aimé. Tu fais pas ça pour qu'on ne te fasse pas de mal. Tu fais ça pour Allah. Et ça, subhanallah, même s'il n'y a pas de, même s'il n'y a pas de mots posés là-dessus, tu le sens. Subhanallah.
Mais en fait, c'est un truc de fou parce que quand tu fais les choses avec cet amour filaire, je te promets, ça t'élève. Ça te met dans un. T'es à la fois humble parce que tu n'as pas d'attente. Tu n'as rien, tu n'es pas. Tu vois, tu le fais en toute humilité face à l'autre personne. Et c'est Allah qui t'élève, c'est Allah qui te renforce. Mais en fait, l'amour filaire, c'est un amour où il n'y a pas de peur. Tu vois, tout à l'heure, je disais l'amour terrestre, l'amour, il peut y avoir de la dépendance affective, il y a des attentes, et puis il peut y avoir un peu de rancœur. Oui, moi j'ai fait tout ça pour toi, je t'aime, et toi non. L'amour filaire, il n'y a pas tout ça, tu vois. L'amour filaire, au contraire, c'est fort. C'est désintéressé. Si je n'ai pas d'attente, j'ai pas de peur aussi. Certes, je t'aime, et bien sûr que si on devait se quitter ou si tu devais partir, il n'y a pas cette dépendance en fait. Parce que, en fait, je suis en mode, moi je le fais pour Allah, et moi j'ai confiance en Allah, et moi j'aime Allah avant tout. Donc finalement, l'autre ne se sent pas. Tu vois, il n'y a pas d'espèce de dépendance, il n'y a pas ce truc normalement de ah voilà, ah ben l'autre elle me court après, elle m'aime, elle m'achange, donc moi je suis. Tu vois ce que je veux dire? Non, en fait, c'est un amour qui est sain, c'est pas un amour qui est toxique, c'est un amour qui est sain. C'est un amour où il n'y a pas de dépendance, il n'y a pas de peur, il y a pas de rancœur, y a, en tout cas, y a, voilà, tu vois. Et en fait, c'est donc c'est un amour, ouais, qui est vraiment sain, qui est beau, qui est lumineux. Et comme tu as dit, je pense qu'effectivement, l'autre personne, c'est libérateur. C'est un amour que je trouve qui est libérateur. Il n'y a pas la
Tout à
pression,
fait.
tu vois. La personne
Tout
en
à
face,
fait.
elle se dit pas, bah, elle m'a fait ça pour moi, je me sens redevable et tout. On compte pas les points, en fait, c'est Allah qui donne à la fin, tu vois.
Ouais, c'est ça. Moi, j'ai toujours, c'est Allah qui donne la rémunération. Tu peux. En fait, tu vois, depuis le temps qu'on discute, je réalise une chose que je n'avais pas réalisée avant, c'est que. C'est la méditation, hein, donc je ne dis pas que ce que je suis en train de dire est une vérité absolue, mais j'ai l'impression que quand tu aimes quelqu'un, par exemple ton époux ou ton épouse, en fait, il y a deux types d'amour, en fait. Il y a l'amour terrestre et l'amour filaire. En effet, et du coup, ça me fait comprendre les hadiths qui expliquent que l'amour à Allah, c'est un amour qui est dénué de tout amour, sauf l'amour d'Allah lui-même. Parce que tu aimes Allah, tu aimes les autres. Et en fait, ton amour terrestre, c'est un amour. De toute façon, c'est naturel. Allah, il a mis ça entre nous, en fait. Hein. C'est Allah qui a mis l'amour terrestre entre nous. Donc, on n'est pas en train de dire que l'amour terrestre, c'est mal. En revanche, ce qu'on est en train de dire, et en tout cas, c'est plutôt ce que Allah a dit, et nous, on essaye de le retranscrire du mieux qu'on le peut modestement, c'est qu'en fait, l'amour filaire englobe encore une fois cet amour terrestre et le fait tourner. Tu vois, moi, des fois, j'ai un peu la métaphore de tu roules, en fait, ton carburant, il est plein. Ça, c'est quand tu es amoureux dans l'amour terrestre. Ton carburant, il est plein, donc tu as la confiance. Tu crois que ta voiture, elle tombera jamais en panne. Sauf que parfois, tu es en réserve. T'es en réserve. Et quand tu roules en réserve, c'est pas très bon, hein, pour les autres organes de la voiture. Mais t'es épuisé parce que, ben voilà, le temps a passé, les épreuves, etc. T'es en réserve, t'es en réserve, t'es en réserve. L'amour filaire, il te permet de remettre du carburant, en fait, de pas rouler en réserve, de pas abîmer ta voiture, d'aller loin, en fait. Parce que quelque part, quand t'as pas l'amour filaire, ton voyage, il peut s'arrêter très vite. Ton voyage, il s'arrête super vite. Ça s'appelle une séparation, ça s'appelle un divorce. Tu peux te séparer en aimant filaire. Je dis pas le contraire, mais je pense profondément que si à chaque fois tu te rappelles de l'amour d'Allah, si Allah le veut ainsi et si tous les deux vous êtes dans des bonnes configurations, on ne parle pas des mariages dangereux, évidemment, ton mariage, il peut aller super loin. Parce que Allah, il gère le carburant, en fait. Toi, de temps en temps, tu mets l'essence, ça fait plaisir parce que c'est bien l'amour terrestre. En fait, on ne dit pas que c'est pas bien, tu peux le mettre. Mais si tu as l'amour filaire, tu ne seras jamais en réserve.
Magnifique, j'aime trop ton exemple. J'aime trop. Et effectivement, cette notion d'englober, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. En fait, l'amour filial, il englobe cet amour terrestre, il le dépasse, ça en fait quelque
Il
chose.
l'enveloppe, en fait.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
C'est ça.
Et ça l'emmène plus haut, en fait. C'est toujours
Ouais.
cette. Moi, c'est ça que je retiens aussi de l'amour filial, c'est que c'est un amour qui t'emmène loin. Et qui, comme tu l'as très bien dit, qui t'emmène. Oui, même après la mort, en fait. Et d'ailleurs, je n'ai pas rebondi sur ton témoignage quand tu faisais le rêve et que tu disais, quand je me réveille, je suis hyper confuse. J'ai l'impression qu'elle n'est pas morte, ma maman. Mais en fait, c'est vrai.
Oui,
En
c'est
fait, genre, en fait je me disais, mais en fait, tu le dis avec conviction. Parce que c'est vrai, en fait, sa deuxième vie, elle n'a pas encore commencé. Et la mort, c'est juste une étape de transition. Mais personne ne meurt, en fait. Et donc, en fait, ce que tu es en train de dire là, pour moi, c'est vraiment encore l'une des preuves de l'amour d'Allah et de son existence, en fait. Le simple fait que tu te dises, bah, elle n'est pas morte. Bah, évidemment que non.
oui.
Évidemment que non, c'est ce qu'Allah nous dit, en fait. Elle ne l'est
Exactement.
pas. Elle est juste en transition en attendant d'aller dans sa vie éternelle. Subhanallah, j'ai trouvé ça très beau. Et tu vois, j'avais une des questions, une de mes questions, c'était un peu, c'est quoi, est-ce qu'il y a un lien direct entre l'amour en Allah et la foi? Mais on est en train d'y répondre, je pense.
Ben oui, carrément. Et d'ailleurs, tu sais, je me dis, c'est pas anodin non plus que j'ai ressenti cet amour filial à la dernière nuit de ma maman. C'est parce que c'est un moment où j'avais la foi, tu vois, très très haute. Parce que je vivais un moment extraordinaire, je vivais un moment dont je ne connaissais que la théorie, tu vois. Et d'un coup, je vois la réalité de la mort, je vois, je ressentais. C'était un moment extraordinaire. Je le dis dans le titre de mon livre, c'est le jour de ta mort devenu le plus beau jour de ta vie. Et je le dis, je pense que c'est à la fois, enfin, c'est pour moi aussi. C'est-à-dire que le jour de la mort de ma mère, c'était le plus beau jour de ma vie. Et ça, c'est un truc, c'était très choquant quand je le disais au début. Enfin, même maintenant, il y a peut-être des gens qui m'écoutent et qui sont choqués. Comment ça, le jour de la mort de ta mère, c'est le plus beau jour de ta vie? Genre, tu l'aimais pas ta mère? Mais si, c'est parce que je
Au
l'aimais filaire
contraire.
et parce que je l'aimais tellement que j'étais heureuse. J'étais très très heureuse de voir la fin qu'elle a eue. Elle a pu faire la shahada, elle a pu. J'ai assisté à des choses extraordinaires. J'ai assisté à des choses qui ne sont pas de l'ordre du terrestre, tu vois. Ça y est, on est passé dans une autre dimension, tu vois. J'ai ressenti des choses, j'ai vu des choses, C'était incroyable. Un de mes moments préférés, par exemple, c'est le moment où je lave ma mère, tu vois, le lavage mortuaire. C'est un moment extraordinaire. C'était un moment vraiment très, 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 très beau, où j'ai senti que j'étais pas seule, où j'ai senti que j'étais entourée par les anges. Et ce qui est incroyable, c'est que je suis pas la seule à avoir ressenti ça. C'est aussi ce que m'ont dit les femmes qui lavent, qui ont l'habitude de laver les mains. Elles m'ont dit, non, non, on ressent pas ça à partout, tout le temps. Hein. Elles m'ont dit, là, c'était particulier, subhanallah. Elles-mêmes, elles ont senti qu'il y avait une belle fin. Et elles ont senti que tout était facilité, que quand on portait ma mère, on la portait pas à... On était quatre, je crois, quatre ou cinq. On n'était pas quatre à la porter, en fait. Elle était beaucoup plus légère, comme si on était beaucoup plus nombreux à la porter, tu vois, etc., etc. Et donc, en fait, tu sens qu'il voilà, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Moi, à ce moment-là, ma foi, elle est dans un... j'ai jamais eu la foi aussi élevée. Aujourd'hui, j'en suis bien loin, hein, mais à ce moment-là, je vis ce truc très intense où j'ai la conviction profonde que l'islam est une vérité, que Allah est une vérité, que le paradis est une vérité, que l'enfer est une vérité, que la mort est une vérité, que la tombe est une vérité. C'est, j'ai cette conviction profonde que tout ce que j'ai appris, c'est une vérité, mais je le ressens dans mes tripes, en fait. Je le dis pas avec ma langue, je le ressens dans mes tripes. Et en fait, j'ai l'impression que, en fait, comme tu as dit, la mahabba fillah et la foi, elles vont côte à côte, tu vois. Plus ta foi est élevée, plus tu vas être capable d'aimer fillah. Et de toute façon, regarde, moi je te le dis, hein, quand moi, ma foi, elle est basse, à la maison, dans mon couple, c'est pas trop ça, tu vois. Je sens, en fait, qu'il y a un truc qui va pas. Et souvent, tu dis, ouais, mais la communication, mais mon mari, nanana, alors qu'en fait, mais elle en est où ta communication avec Allah, tu vois. Elle en est où ta relation avec Allah? Quand ta relation avec Allah ne va pas, ben tout le reste ne va pas. Hein. Et c'est pour ça que quand dans ta vie, tu as des problèmes et des choses qui ne vont pas, que ce soit dans ton couple, dans l'éducation de tes enfants, dans le travail, dans tout ce que tu veux, commence par réparer ta relation avec Allah et tu verras que tu seras surprise de voir comment... Parce que c'est Allah qui trouve les solutions, qui met la baraka, qui met l'amour, qui ramène les bonnes personnes, qui te soulage. Il lui suffit de dire « kun fayakun hein. ». Pour Allah, ce n'est pas compliqué, tu vois. Le problème, c'est que nous, on s'éloigne. Et en fait, plus tu t'éloignes, plus tu t'éloignes d'Allah, plus tu t'éloignes de la mahabba fillah, etc. Et plus, enfin, plus c'est compliqué. Mais plus tu te rapproches d'Allah, et plus ta croyance, elle est forte, et plus la mahabba fillah, elle est forte. Et moi, j'ai ce sentiment qu'effectivement, la mahabba fillah et la foi, c'était très lié, parce que quand j'ai eu la foi la plus haute, c'est là où j'ai ressenti la mahabba fillah d'une manière extraordinaire, tu vois, vraiment d'une manière exceptionnelle, intense, réelle, vraie, etc. Parce que j'avais ce sentiment très, très fort, tu vois. Donc, carrément. Et puis, il y a un hadith. Le prophète Hassan nous dit, vous ne serez véritablement croyant que lorsque vous vous aimerez. Tu vois, tu peux pas être véritablement croyant et ne pas aimer tes frères.
Mais il faut que c'est... aucun de vous ne sera croyant tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Il y a deux versets. Ah, d'accord. Okay.
Parce que celui que je t'ai cité, c'est vrai que la fin, c'était, et je vais vous, ne voulez-vous pas que je vous dise quelque chose qui va augmenter ce. Et c'est serrez-vous la main. Donc il y a ce hadith et il y a celui que tu as cité. Et effectivement, celui que tu as cité, c'est effectivement. Vas-y, tu peux le répéter
Alors, aucun de vous ne sera croyant tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et franchement, subhanallah, moi-même, je l'ai ressenti dans ma vie. Quand on fait des choses en se disant vraiment ça, je l'aime tellement que je vais le donner, déjà c'est dur. On se rend compte que c'est pas un sentiment qui est une action qui est simple, parce que c'est pas quelque chose qu'on fait souvent. Mais quand on le fait, oh, la baraka d'Allah et l'amour d'Allah descend, mais c'est saisissant en fait. C'est époustouflant, littéralement, subhanallah. Et c'est. Ouais, il y aurait tellement encore à dire sur l'amour en Allah, mais tu nous as déjà dit tellement de choses. Mais je vais quand même, je voudrais qu'on conclue sur ce thème-là avant de partir doucement vers ton livre, même si finalement on en a déjà beaucoup parlé. Subhanallah, je pense que là vraiment les personnes qui l'ont pas lu, vous aurez bien compris qu'il y a urgence à le commander. Mais je voudrais lire un passage de ton ouvrage, Oumaïma, parce qu'en fait, je trouve que ça traduit, ça définit parfaitement ce que c'est que la mahabba fillah. Tu veux bien ?
Oui, bien sûr.
Alors, je pense que c'est un passage dont tu vas te souvenir assez facilement. Je t'en dis pas plus, je vais commencer ma lecture. Bismillahirrahmanirrahim. C'était Halal Love, le podcast qui cherche à s'aimer en Dieu pour semer mieux. J'espère que cet épisode vous a plu et j'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé, ce que vous avez choisi d'en retirer. Halal Love, c'est un podcast qui est conçu avec beaucoup d'amour et qui se nourrit du même ingrédient. Si vous souhaitez m'en envoyer un peu, beaucoup, passionnément, dites-le moi avec 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez 10 secondes et laissez un commentaire sympa, ça c'est si vous avez une minute. Si vous n'avez pas d'appareil Apple, aucun problème. abonnez-vous sur l'application de votre choix, Spotify, Deezer, Google Podcast ou autre. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous, sur vos réseaux sociaux, auprès de vos proches, de votre famille, de vos amis. Un grand merci à celles et ceux qui le font déjà et ceux qui pensent à moi dans leur doura. Qu'Allah Azzawajal vous récompense de la plus douce des manières. Vous êtes géniaux, j'ai pas d'autres mots. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et vous dis à mardi prochain si Dieu veut. En attendant, peace et halal love sur chacun d'entre vous.